Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'attends juste à ce que mes intervenants rejoignent cet espace. Comme vous l'avez vu sur notre compte Twitter, on a pas mal d'invités ce soir. Il faudra voir s'ils arrivent tous à se connecter au space. Parce que je vois qu'actuellement, Yous n'y arrive pas. J'espère que vous allez tous très bien. J'attends juste qu'ils arrivent tous pour qu'on puisse commencer à parler de l'OM. On va avoir un petit space, je pense, d'une heure, 2 heures. Comme d'habitude. Chaque lundi, on se retrouve en space Twitter pour parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille pour notre podcast Talk Zone, avec des intervenants que si vous écoutez déjà le podcast, vous connaissez. Donc, par exemple, Youss et Younes, mais également Wael, qui participait à nos podcasts cet été. Vu que l'actualité de l'OM est assez chargée, on a essayé de la répartir avec les trois grosses infos qu'on a eu au cours de ces derniers jours, c'est-à-dire la démission ou le licenciement de Gennaro Gattuso. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle qui a intervenu ce matin. Puis l'annonce de la nomination de Jean-Louis Gasset, ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Pour ça, on aura certainement Ismo Scouting qui viendra nous en parler, mais je pense que mes intervenants ont assez suivi la Coupe d'Afrique des Nations et la Ligue 1 ces dernières années pour nous parler de Jean-Louis Gasset. Et puis on parlera aussi du projet de Pablo Longoria, qu'on a assez évoqué dans certains tweets, où certains peuvent nous taxer d'anti Longoria. Il y en a qui nous taxent aussi de promac courte, un peu de tout et de rien, et qu'on va certainement évoquer parce qu'au fond, dans l'échec que constitue déjà cette saison, le problème revient peut-être à la direction de l'Olympique de Marseille. J'espère que vous allez tous bien, Marouane, Youss. Je pense qu'on peut déjà commencer. Même si il y a Moha, je crois, qui va arriver, que Marouane nous a permis de convier ce soir. Et la première question que je vais vous poser, et je pense que je vais commencer par Younes, c'est comment vous vous sentez après une journée très 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 olympique de Marseille, où on a eu le droit hier à une défaite en supériorité numérique et à énormément de mouvements ce matin?
On a eu la journée qu'on espérait hier soir quand on s'est couché. Je pense parler au nom de tous en disant ça. On a encore eu le droit hier soir à non seulement une prestation vide de tout sens. On le disait déjà la semaine dernière et on le déplorait malheureusement. On voyait que Gattuso ne maîtrisait absolument plus rien. On n'avait absolument aucune cohérence offensive et même défensivement, on voyait que l'équipe était en difficulté assez facilement. Face à n'importe quelle équipe, on ne concède pas beaucoup d'occasions nettes ou de tirs cadrés, et ça, il s'en est targué en conférence de presse. Mais la réalité, c'est que l'équipe, elle se fait malmener assez souvent, le bloc équipe aussi, et offensivement, on est complètement inoffensif. Hier encore, on a eu un match où le premier tir cadré, je crois qu'il intervient à la 75e minute avec Aubame, sur un ballon archi mal donné de Luis Enrique. Et surtout, le pire dans la soirée d'hier, je crois que c'était encore une fois la conférence de presse d'après-match où on a le sentiment que Gattuso, il se fout clairement de la gueule du monde et qu'il provoque un peu les choses pour son licenciement. Donc le sentiment, c'était de se dire qu'on a une grosse échéance jeudi et qu'on espérait de le voir partir d'ici là. Honnêtement, je n'étais pas convaincu que ça arrive parce que honnêtement, le timing est hyper serré et finalement, on a eu la belle nouvelle en fin de matinée. Et maintenant, on parlera de l'après. J'ai quelques doutes, mais on en parlera peut-être par la suite.
Bon, on en parlera de l'après, du coup, avec la potentielle nomination de Jean-Louis Gasset qui est évoquée depuis ce matin, qui semble presque officielle. Je vais aller vers toi, Youss. La semaine dernière, on avait évoqué dans un de nos sujets, donc lundi dernier, le problème Gattuso. On se demandait si Gattuso n'était pas finalement le problème de l'Olympique de Marseille, si ce n'était pas lui le responsable de la très mauvaise passe que connaissent nos Olympiens depuis janvier. Je tiens à préciser, hein, une seule victoire en 2024 et c'était contre une N3 avec bien des difficultés. Il semble que la situation a grandement évolué parce que, comme l'a dit Younes, je pense que ce matin et hier soir, on était tous unanimes sur le sort de Gattuso. Je te pose la même question, Younes, qu'est-ce que tu retiens de cette journée? Est-ce que tu penses que c'était la bonne solution à court terme pour l'Olympique de Marseille de se débarrasser du coach italien?
Une bonne journée, oui, ça c'est clair. Je vais pas te mentir, hein. Hier en stream, on parlait de ça et on se disait que on était même à ça de se dire si on voulait pas tout sauf lui, même si c'était Pancho la suite. Donc là, on aura potentiellement mieux que Pancho. Donc je peux être que content maintenant. Après, effectivement, quand on va rentrer plus en détail sur le reste, peut-être qu'il y aura des choses à dire. Moi, en tout cas, je suis pas de ceux qui sont super. super pessimiste sur la suite, vu que c'est une petite suite, mais on aura le temps d'en parler. Le principal responsable Gattuso, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense pas que ça soit le principal responsable. Mais le fusible le plus facilement changeable, oui, ça c'est. Enfin, on arrive à un moment de la saison où je pense qu'on est tous déçus de plein d'individualités. On est très déçus du président, du mercato, de comment il a été fait. Mais ce que tu peux changer tout de suite, ce sur quoi tu as la main, c'est le coach. Et bah, je pense que c'était à faire. Clairement, il n'y a pas de plus-value. Il est arrivé dans un rôle de pompier. Bah, tu vois que le rôle de pompier, il ne le fait pas. Il ne le fait pas bien. Le bilan de Gattuso, je n'ai pas les chiffres exacts. Mais là, on est sur les temps de passage de l'OM de Mitchell 2015-2016. Sachant que l'OM de Mitchell a gagné quelques points sur la fin de la saison, potentiellement, si on compare que les passages purs hein, de Gattuso et de Mitchell, il y a moins que Gattuso soit un peu en dessous de Mitchell. C'est dire hein, là où il a placé la barre. Il y a quelques mois, tout le monde était dithyrambique sur le mercato, même s'il y a des joueurs qui ont déçu. La logique actuelle sportive n'est pas ce qui devrait être la logique normale dans un club comme l'OM. Donc tu peux penser qu'effectivement c'est une grande partie de cette analyse qu'on se fait qui est due à Gattuso et il fallait le sortir. Et puis maintenant on verra pour la suite. Mais en tout cas un soulagement parce que il y a aussi le terrain. Ça, le terrain, je pense qu'on le voit tous et on souffre tous pour ceux qui sont encore courageux et qui regardent encore les matchs. Mais il y avait aussi tout ce qu'il y avait à côté, cet ego, cette fierté, cette défiance qu'il avait en conférence de presse, ces phrases qui n'avaient aucun sens. À un moment, le 3-5-2, c'est trop défensif. Puis en fait, non, mais c'est pas une histoire de système. Enfin, voilà, il fallait que ça s'arrête. Merci. Et du coup, je souhaite en placer une spécialement à Monsieur Gaël Angoula et également à messieurs du coup Gaël Angoula et Pierre Lesmelou, sans qui rien n'aurait été possible.
En vrai, si on ouvre le Scoria, il y a quand même fort à parier qu'on prend une égalisation.
Peut-être. Peut-être. Foule, hein, donc merci à M. Angoula de n'avoir pris aucun risque, du coup. Mais voilà.
En tout cas, Yous, tu as évoqué le bilan comptable, tu as aussi évoqué la com du coach. Moi, j'ai l'impression que le tournant s'est surtout effectué sur la conférence de presse, soit d'après-match contre le Shakhtar, soit c'était l'avant-match, je ne m'en rappelle plus trop, où justement, il a parlé du système, où il affichait... une communication qu'on peut qualifier d'assez
nauséabonde. C'était juste avant.
C'était juste avant. Bah Marouane, je vais te laisser y aller. Qu'est-ce que tu retiens du coup de ces derniers jours et surtout du bilan de M. Gennaro Gattuso avant d'interroger après Wally. Ouais.
Bah pour être assez bref sur le dernier jour, je pense que c'est un jour qu'on a quand même vécu plusieurs fois ces dernières années. En tout cas, moi, je l'ai pris avec beaucoup de, comment dire, de sérénité, dans le sens où bah voilà, on connaît maintenant la musique. Un entraîneur qui part brusquement au milieu d'une conjoncture sportive qui est assez catastrophique. Tu te dois finalement bah, de changer de tête parce que tu vois bien que tout est en train de foutre le camp au club. Et je pense que, en tout cas, il y a deux lectures à avoir dans cette histoire. Il y en a une première qui est conjoncturelle, dans le sens où à court terme, ben, je pense que Gattuso, c'était le fusible à faire changer. Peut-être même avant cela. Parce que encore une fois, et moi pour le coup, j'ai une analyse qui est la même dans la finalité que Yous, mais dans le constat plus en amont, elle diffère dans le sens où moi je l'ai pas senti défiant Gattuso, pardon. Je l'ai plutôt senti moi complètement dépassé par la situation, et ce depuis plusieurs semaines. Et je vais peut-être aborder un aspect que d'autres gens ont peut-être évoqué ou peut-être pas, c'est notamment l'adhésion de son discours auprès des joueurs. Et pour moi, le match contre Brest hier, il était révélateur. Il y en a eu d'autres aussi. Mais quand je regarde notamment Pierre-Emerick Aubameyang, je l'ai trouvé extrêmement expressif dans les ratés de ses coéquipiers ou les siens, comme si en fait, il se savait observer. Et il savait en fait que bah, voilà, il devait peut-être sauver un petit peu la face. Et il faisait des gestes en fait, qui étaient destinés à être compris. Quand, par exemple, Luis Enrique lui fait une passe qui est trop en arrière sur ce fameux 3 contre 2, il fait bah, voilà, un geste de la main, tu aurais dû me la mettre devant, alors que bah, voilà, pas forcément quelqu'un le regarde, mais il se sait filmer. Et en fait, on comprend qu'il cherche à se dédouaner, il sait que les choses ne vont pas bien et qu'il y a des responsabilités qui sont en train d'être attribuées. Et sur plusieurs joueurs comme ça, sur ce match, j'ai senti que les joueurs en fait, cherchaient à montrer bah, que ce n'était pas forcément de leur faute. Et globalement, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait les joueurs ont essayé, n'ont pas lâché Gattuso, mais n'ont jamais vraiment été convaincus en fait par ce qui se passait. Et finalement derrière, ils ont tous vu le naufrage arriver parce que voilà, on a quand même assez vu Gattuso que sur le plan tactique c'était assez limité. Et il y a un autre moment aussi que j'ai relevé, c'était la conférence de presse d'avant-match à Brest, où je ne sais plus qui l'interroge à Kondogbia. Donc on lui demande voilà, comment ça se passe dans la semaine, est-ce que vous êtes toujours là, est-ce que l'état d'esprit est toujours en rendez-vous. Et Kondogbia répond en disant ben, voilà, au quotidien, il y a un groupe, c'est ça le plus important, il y a un bon groupe. Et commence à aborder le travail, il dit, et pendant la semaine, on travaille, et au lieu de dire bien, il baisse un petit peu la tête, il dit plutôt bien. Et pour moi, en fait, c'est. Allez, je ne vais pas faire le Patrick Jane, le mec qui regarde les mentalistes, qui lit les micro-expressions. Mais en fait, tu sentais que je pense que les gens n'étaient pas dupes en fait sur la méthode Gattuso. Et Gattuso, il le dit lui-même, il savait plus comment faire. Et je pense que quand un entraîneur il a ce discours-là en public, je pense qu'en privé c'est la même chose. Surtout avec Gattuso, qui je pense pas est quelqu'un de faux. On peut lui faire 1000 reproches, mais je pense que comme il est devant la presse, il est aussi comme ça devant les joueurs. Et j'ai l'impression en fait qu'il a rapidement été, on a rapidement vu son plafond finalement à l'Olympique de Marseille. On voit bien quand même qu'il y a des incohérences qui pour moi prouvent une certaine incompétence. Dans le sens où, quand il vient nous parler de son 4-3-3 et de son 3-5-2, quand il dit que voilà, jouer le contre, ce n'est pas forcément ce qu'il aime, mais quand il utilise son 4-3-3, il a une maîtrise du match qui est bien moindre que lorsqu'il est en 3-5-2. Un 3-5-2, d'ailleurs, qui avait aussi des défauts, hein, parce on était dans ce débat-là, mais son 3-5-2 non plus, il avait du mal à l'animer. C'était beaucoup mieux parce que finalement, c'était beaucoup plus facile d'être cohérent dans ton approche du match, dans ta structure, et tu avais surtout les joueurs à ce moment-là qui était fit et approprié pour ce schéma-là. Mais en fait, même son 3-5-2, il l'a subi. En fait, il n'a fait que subir à son aventure à l'Olympique de Marseille. Tactiquement, il était complètement dépassé dans sa gestion des joueurs. Même à son corps défendant, il avait énormément de joueurs qui étaient indisponibles. Et finalement, moi, ce que je retiens, c'est que l'Olympique de Marseille a aussi révélé l'incompétence de Gattuso. Donc, au final, voilà, pour te répondre de manière assez concise, même si je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, journée assez sereine, on l'a déjà vécu. Et Gattuso, moi, ce que j'en retiens, c'est un entraîneur dépassé et rapidement incompétent. Et donc, je pense que c'est aussi ça qui a transpiré hier soir. Et c'est, je pense, aussi pour ça que les dirigeants ont peut-être changé leur plan en décidant de s'en séparer immédiatement après le match.
Justement, il y a juste un petit point sur lequel je voulais rebondir sur ce que tu dis, Marouane, dans le fait que Gattuso ne soit pas vraiment faux. J'ai pas tout à fait la même lecture parce que ce qui m'a, je pense, le plus déçu avec Gattuso, c'est le contraste entre ses déclarations en conférence de presse et la réalité de ce qu'on voit sur le terrain. Ça a commencé très vite, très fort avec ses premières conférences de presse où il a servi un petit peu le discours que tout le monde voulait entendre. Il a fait des éloges à tous les joueurs. On va passer sur la comparaison de Harit avec Ricardo Kaká. Mais dans son discours et dans ce qu'il dit en conférence de presse, jusqu'à récemment, où encore une fois, il dit que lui, il veut être protagoniste avec le ballon, qui veut avoir le contrôle du match, la maîtrise. On n'a jamais rien vu de tout ça. Et ce qui me dérange encore plus, c'est qu'on n'a pas vu l'ébauche de tout ça. C'est-à-dire que tu peux avoir un entraîneur qui a des idées de jeu, qui a du mal à les appliquer, et tu vois juste que l'équipe n'arrive pas à appliquer ce que veut l'entraîneur. Là, en l'occurrence, j'ai absolument rien vu pour le coup. Et tu parlais
Mais
du
il n'y est
point.
pas arrivé pour moi, justement. Pour moi, il n'y est pas arrivé. Et c'est ça qui est grave dans cette histoire-là. Parce que, en fait, pour moi, tu as la bonne analyse dans le sens où bah, il a dit qu'il ferait X en conférence de presse, on a vu Y sur le terrain. Mais tu as
Ouais, je suis
complètement
d'accord.
raison, on les a vus les matchs. Mais pour moi, il a essayé. Et c'est ça le pire dans cette histoire-là. C'est qu'il a essayé et qu'il n'a réussi à rien faire. Parce qu'il y a quand même deux moments dans l'aventure de Gattuso, c'est avant la trêve et après la trêve. Avant la trêve, on se dit même que voilà, la CAN, ça va être compliqué. Mais retour de l'effectif, ça va potentiellement aller mieux parce qu'il y a eu certains matchs, la première mi-temps à Lorient, le match contre Brighton, où du moins tu essayes d'aller les chercher. C'est pas facile, mais derrière, tu te fais toujours plier par l'adversaire en fin de match.
Ouais.
Tu n'as jamais réussi à garder ta maîtrise, et c'est ce qu'il disait. Et lui ne s'expliquait pas pourquoi est-ce que dans les matchs, il n'y avait pas de régularité sur 90 minutes. Et c'est ce qu'il disait, souviens-toi, tu vois, en conférence de presse, je ne comprends pas pourquoi on ne tient pas les matchs. Et en fait, bah, tout au long de l'aventure, il n'a rien compris.
Non,
Et
mais
malheureusement, bah,
je suis d'accord avec toi sur la période avant la trêve. Je mets juste de côté le match de Brighton, parce qu'en vrai, enfin, je trouve pas qu'on ait particulièrement essayé d'aller les chercher, etc. Mais cette équipe de Brighton, ce soir-là, en tout cas, elle était stratosphérique. Et pour moi, ce match-là, c'est un épiphénomène. En vrai, on ne va pas rencontrer 15 équipes comme ça dans la saison.
je parle de l'aller, hein, je parle pas du retour. Le retour, tu te fais bouffer. Hein.
Effectivement, à l'aller, on a eu plus de cohérence dans le pressing. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est que il s'est vraiment. Il est un peu tombé dans le biais qui guette tous les entraîneurs, c'est-à-dire que ça devient lui contre la vindicte populaire ou contre les journalistes ou le microcosme de supporters qui clament un système. Parce que enfin, le 3-5-2, comme tu le disais, c'est là où on a eu les meilleurs matchs de l'OM. Et pour cause, enfin, si tu prends un pas de recul et en te mettant à sa place, c'est le système qui permet le plus aux joueurs d'être autosuffisants. C'est-à-dire que tout le monde est à sa place, tu as ta ligne défensive qui a parfois beaucoup de mal à deux, que ce soit Gigot, que ce soit Balerdi, et ben le fait d'être à trois, ça les rend meilleurs et ça les bonifie beaucoup. Je rappelle que Mbemba a quand même fait un début de saison qui était vraiment limite, et que le second souffle, il l'a retrouvé quand on est passé à trois. Même offensivement, Aubameyang, on a vu que même s'il met un triplé contre l'Ajax juste avant le passage au 3-5-2, ça lui a fait un bien énorme. Même un joueur comme Vitinha, qui a pas été bon toute la saison, mais t'as su lui trouver une utilité dans ce 3-5-2 parce qu'il permettait d'ancrer et de fixer, d'être un point de fixation pour la défense adverse et de libérer un peu plus Aubameyang. Tout ça, c'est des choses qui paraissaient un peu naturelles et qui paraissaient évidentes. Et Gattuso, après le match contre Rennes, a décidé de s'entêter et de rentrer dans un bras de fer en rentrant en guerre publiquement contre le 3-5-2, alors que pourtant c'est le système auquel il devait son salut et auquel il devait sa bonne période. Et en l'occurrence, tu regardes les conférences de presse des dernières semaines, c'est vraiment « je veux mourir avec mon 4-3-3, je veux mourir avec mes idées ». Et ce qui me dérange le plus dans le 4-3-3, c'est pas le 4-3-3 en lui-même, on peut effectivement jouer en 4-3-3, c'est d'avoir absolument aucune idée pour l'animer. Et ce qui me dérange encore plus, c'est qu'il aurait pu avoir un mois de janvier compliqué au vu de tous les départs qu'on a eu à la CAN, etc. Mais par exemple, le match contre Rennes, très honnêtement, quand tu regardes, je crois que c'est le pire match qu'on a en termes d'effectifs. On a 12 joueurs disponibles, on en a deux qui se blessent. Honnêtement, c'est un match qui, dans le contenu, n'est pas horrible. Hein. Honnêtement, le match d'hier est bien pire que celui contre Rennes, par exemple. Tu vois. Donc, c'est un peu ce qui me dérange avec Gattuso et le côté faux dont tu parlais, justement, que tu ne le trouves pas. Moi, je le trouve plutôt faux. Parce qu'on a un Gattuso en conférence de presse et un Gattuso sur le terrain, et on a probablement un Gattuso sur le terrain avec à l'entraînement, comme tu disais, avec Kondogbia. Qui,
mais tu ne penses pas que c'est de l'incompétence, ça hein.
Pardon ?
Je ne pense pas que c'est de l'incompétence, c'est oui. Plutôt une incapacité à mettre ses idées en pratique, plutôt qu'une fausse idée, tu vois.
C'est un manque de lucidité, alors plus que de l'incompétence, et c'est ça qui me dérange le plus, alors pour le coup. Parce que ça reste quand même un joueur de haut niveau et une des qualités les plus essentielles pour réussir dans le football, c'est quand même d'avoir une lucidité sur savoir ce que tu peux faire et ne pas faire. Je pense que sur un terrain de foot, il l'avait, donc j'ai du mal à croire qu'il en soit dénué. C'est jamais un joueur qui s'est pris pour un autre et qui a essayé de dribbler 10 joueurs. Il avait un rôle bien précis, il se contentait de le faire. J'ai du mal à me dire que cette qualité…
Mais je pense qu'il a un complexe, Younes, par rapport à ça. Je pense qu'il a un complexe par rapport au joueur qu'il était et par rapport à l'entraîneur qu'il a voulu montrer qu'il était. Parce que tu sais, et toi tu le dis justement en conférence de presse, il passait son temps à dire que c'était un chantre du football protagoniste, un représentant de cette école de pensée. Et finalement, quand il arrive, la première chose qu'il dit, c'est « le joueur que j'étais, peut-être que je ne l'aurais pas fait jouer ». Et derrière, en fait, avec son obsession aussi du 4-3-3, parce qu'en fait, c'est ça en fait, j'ai l'impression qu'il était constamment dans une bataille interne. À un moment, il dit « mon ego, je l'ai rangé et j'ai fait ce qui était mieux de manière ponctuelle avec ce 3-5-2 ». Et en même temps, après, il pète un câble juste avant Shakhtar, il dit « ben non, finalement, moi, je ne suis pas ce type d'entraîneur-là. Le 3-5-2, c'est le contre, c'est attendre et jouer la transition offensive. Moi, je ne fais pas ça ». Et en fait, j'ai l'impression qu'il a constamment voulu prouver qu'il était plus intelligent que l'impression que donnait le joueur qu'il était. Et sans forcément, tu vois, s'accepter, alors que dans les faits, c'est un entraîneur qui ne te parle que de caractère, c'est un entraîneur qui ne te parle que d'agressivité. Sur le banc de touche, c'est un entraîneur qui n'est pas serein. Et finalement, c'est un super joueur, il n'y a pas de problème là-dessus, mais tu retrouves beaucoup plus de similarité avec le joueur qu'il était sur le plan du comportement que finalement de similarité avec l'école de pensée footballistique de laquelle il se réclame, tu vois.
Ouais, non, mais.
Juste une. Je sais pas si tu veux répondre, mais comme ça je peux.
Non, je vais la parole. En disant que je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Marwan, c'est juste sur la définition du mot faux, pour le coup, qu'on
okay, ouais.
n'a pas vraiment la même définition, mais on est d'accord pour dire qu'effectivement, on a eu plusieurs Gattuso et c'est ce manque de consistance et de cohérence qu'il avait. Mais on est d'accord sur les constats.
Pour l'instant, même si vous avez un tout petit point de dissension par rapport au jugement. Est-ce que Gattuso est un vrai ou un faux dans sa communication? Je pense qu'on est tous assez d'accord sur son bilan à l'Olympique de Marseille qui est plutôt catastrophique. Je vais le répéter encore une fois, mais autant d'un point de vue comptable où l'OM a pris presque moins ou autant de points que l'Olympique lyonnais depuis septembre. Lyon qui a joué le maintien pendant une grande partie de la saison. Well, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ce qui a été dit sur Gattuso.
Je pense que c'est peut-être pas le moment. Sur Gattuso, je ne vais jamais m'attaquer à l'entraîneur. On a tous vu à quel point, je ne vais même pas parler d'incompétence, c'est juste l'incompréhension même de ce qu'il devrait faire, je pense, de mon côté aussi. Ça a été compliqué, mais moi, je voudrais soulever autre chose plutôt, c'est la problématique structurelle de l'OM. Et ça fait en sorte que ce qu'il y a aujourd'hui, toutes les années, on le revoit. toutes les années, toutes les saisons, on a toujours ce genre de problème avec n'importe quel entraîneur et on aura toujours les mêmes problèmes parce que structurellement, l'OM, je vais pas utiliser un terme, mais ben on n'est pas bon, tout simplement. On n'est pas sur la bonne route, tout simplement, genre. Je pourrais même pas expliquer pourquoi est-ce que c'est comme ça. Peut-être qu'il y a des pistes, peut-être que Marwan, Youss, Younes, Walid, Mohamed, ils auraient quelque chose à dire par rapport à ça. Mais clairement, moi, je pense que la structure fait qu'aujourd'hui, on est catastrophique et on restera catastrophique quoi qu'on fasse.
On essaiera justement, well, dans une troisième partie, je pense, d'aborder la thématique structurelle de ce qui ne va pas à l'Olympique de Marseille.
Du sang.
Ouais, le projet de Pablo Longoria qu'on a.
Non, 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 voilà, Marouane, je veux pas du sang, je veux juste.
Non, mais t'as raison dans ce que tu
Mais
dis.
qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette équipe? Genre,
En vrai,
sincèrement, il n'y a personne.
non,
Vas-y,
pardon,
vas-y.
là, juste sur la partie structurelle, je pense qu'on est tous d'accord sur certains problèmes qu'il y a à l'OM, etc. Mais honnêtement, moi, j'ai pas, à l'heure actuelle, on est au mois de février, j'ai pas envie de parler de ça. Pour moi, c'est des discussions que tu dois avoir pendant l'été, au début du championnat, où tu fais les constats des limites de ton effectif, de la direction que tu prends, etc. Là, on est en plein dedans. C'est pas en mi-février que tu vas prendre un nouveau virage dans ta stratégie. La stratégie, elle est escalée. Moi, ce que je constate, c'est qu'honnêtement, l'effectif, quand je le regarde, il est très satisfaisant. Je vois une équipe qui, si tu compares par rapport aux 10 dernières années, est très cohérente. Elle est pas dans les 5 moins bonnes, par exemple, des 10 dernières années. Donc, pour moi, si tu as un entraîneur qui est à minima bosseur et qui a des idées de jeu claires, il y a de quoi travailler avec cet effectif. Et quand tu vois en plus le championnat de France qui n'avance absolument pas, avec un projet de jeu à minima cohérent, tu peux accéder à tes objectifs. Donc moi, je suis d'accord avec toi sur la partie structurelle, mais en soi, pour moi, c'est un débat que tu dois avoir à un autre moment dans l'année. Là, on est en plein dedans, on est parti sur celle-là, et on doit juste composer avec ce qu'on a à disposition. Et ce qu'on a à disposition, pour moi, c'est assez satisfaisant.
Juste pour finir sur Gattuso, de toute façon, après on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. J'essaie juste de faire un tour de table. On a deux autres intervenants qui sont arrivés. Mohamed, qui est chroniqueur au Club des 5. J'espère que tu vas bien, Mohamed.
Salut les gars.
J'espère
Ouais,
que tu
ça
vas.
va et vous?
Salut
Comment
Mohamed.
allez-vous?
Super, et toi?
Ça va, hein? Ça va,
Bien.
j'attends juste la notification de Fabrice Hawkins qui nous dit que Jean-Louis Gasset, c'était une blague. Je l'attends toujours, mais elle va pas arriver.
Ça viendra pas, Mohamed. On est foutu, foutu pour foutu. Là, il va arriver.
Non, mais Mohamed, avant qu'on aborde le sujet, Jean-Louis Gasset, je t'ai vu sur ton compte Twitter, t'as un peu utilisé la blague de est-ce qu'on se foutait de nos gueules, est-ce que c'était un prank. Je voulais revenir sur le passage de Gattuso. Je pense que tu as un peu entendu tout ce qu'ont dit nos intervenants. Toi, qu'est-ce que tu retiens du passage de l'Italien? Est-ce que tu comprends la décision du board de s'en séparer? Et est-ce que pour toi, elle est un peu arrivée, est-ce qu'elle n'est pas un peu arrivée trop tard?
Qu'est-ce que je retiens du passage de Gattuso? Bah, malheureusement, rien. Rien, pourquoi? Parce que c'est catastrophique, tout simplement. On peut rien tirer de positif, en tout cas. J'ai écouté Marwan, j'étais totalement d'accord avec ce qu'il a dit. C'est qu'aujourd'hui, l'OM a révélé l'incompétence pour moi de Gennaro Gattuso. Pourquoi? Parce que moi, je ne connaissais pas trop en tant que coach. Même ses passages en Italie, ils n'étaient pas non plus très très longs dans le club où il est passé. Donc, je n'ai pas forcément eu le temps de bien analyser ce qu'il voulait mettre en place à chaque fois. Mais c'est vrai que quand il est arrivé, moi, on est passé de Marcelino un caractère calme et un peu introverti à Gattuso. Moi, je pense que quand Gattuso arrive, le message du club, c'est voilà, on met quelqu'un avec du caractère, du charisme, on remet quelqu'un avec du caractère, du charisme, quelqu'un vraiment de solide de psychologiquement. En tout cas, c'est l'image qu'a Gattuso. Et moi-même, dans mon esprit, je me suis dit, bon, c'est pas forcément une mauvaise chose pour éteindre un peu le feu avec tous les problèmes qu'il y a eu en interne avec les supporters et aussi au niveau des résultats et au niveau de ce que l'OM mettait en place avec Marcelino. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah, c'est vrai que quand tu creuses, Gattuso, c'est un échec total. Moi, on m'avait prévenu déjà à la base parce que j'ai un ami qui a bossé avec lui dans un des clubs où il est passé. Et il m'avait dit qu'au fait, au début, on allait un peu avoir de la poudre aux yeux parce que sa communication, elle n'est pas forcément mauvaise. Au début, elle n'était pas forcément mauvaise, en tout cas. Il dégageait une espèce d'optimisme vraiment important dans sa communication. Il parlait beaucoup de discipline, de rigueur, etc. Et de caractère, ce qui manquait pour moi à l'OM, entre autres. Il manquait pas que ça, mais il manquait ce qui manquait aussi à l'OM au début de saison avec Marcelino. Et même moi, j'ai été emballé. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, on va laisser la chance au produit comme d'habitude. J'aime pas, moi, donner mon avis avant même que le mec arrive. Chaque contexte est différent. Il y a des coachs qui très moyens qui arrivent à performer dans des clubs juste parce que le contexte est bon et que la sauce prend. Ouais, il y a des choses qui se passent comme ça. C'est comme pour les joueurs. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, tactiquement, il n'y a aucune évolution. Techniquement, au niveau des joueurs, c'est pareil. Physiquement, athlétiquement, c'est catastrophique. C'est de pire en pire même. Il n'y a aucune évolution. Et moi, en fait, les gens peuvent me parler de l'effectif. Mais pour moi, c'est une certitude que ce n'est pas l'effectif le problème. Aujourd'hui, l'effectif, il est fourni. Alors, je ne dirais pas qu'il est moins bon ou meilleur que celui de l'année dernière, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements quand même. Mais en plus, c'est même pas le sujet principal. Mais quand aujourd'hui on regarde l'effectif de l'Olympique de Marseille par rapport à d'autres concurrents qui sont devant nous, je prends l'exemple de Lens, je prends l'exemple de Rennes, je prends l'exemple de Brest, même Lille, je suis pas sûr du tout, et j'en suis même sûr que l'Olympique de Marseille n'a pas un effectif moins fort que ces équipes-là. Ça reste mon avis, j'en ai l'intime conviction. Et quand bien même ces équipes-là, et quand bien même l'Olympique de Marseille aurait eu un effectif égal ou moins fort que ces équipes-là, ça n'empêche pas d'avoir quand même un contenu de jeu intéressant, et ça n'empêche pas quand même d'avoir des choses cohérentes dans l'effectif. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, il n'y a aucune cohérence, il n'y a rien qui se passe. Et malheureusement, pour moi, Gennaro Gattuso, comme il a dit Marouane, il a révélé son vrai niveau de coaching aux yeux de l'Europe. Ça a marché quasiment nulle part. Je crois qu'il a eu une Coupe d'Italie, si je ne me trompe pas, avec, je sais même plus si c'est que Napoli ou avec l'AC Milan,
C'est avec Naples.
avec Naples, voilà. Dans les contenus, moi, on m'avait déjà prévenu que tactiquement, c'était un néant. Et malheureusement, ce qu'on peut retenir aujourd'hui de Gennaro Gattuso, c'est que c'est un échec cuisant de son passage. C'est que c'est un mec qui était complètement aussi à l'agonie en termes de communication, parce que autant tu peux avoir des difficultés à mettre en place des choses, autant tu peux aussi avoir un recul quand même important pour reconnaître que bah, ton équipe n'a pas été bonne dans tel domaine, à tel match, à tel moment, avoir une analyse des choses quand même intéressante. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que quand tu écoutes les conférences de presse de Gattuso, le mec, il parle toujours de la même chose. Il parle toujours de la même chose. C'est toujours la grinta, c'est toujours le caractère, c'est toujours le charisme, c'est toujours la détermination, etc. Mais à aucun moment, on parle technique, à aucun moment, on parle tactique, à aucun moment, on parle de l'analyse du match. Et ça, c'est problématique. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, Gattuso, déjà, premièrement, il n'a pas réussi à déceler les points faibles de l'Olympique de Marseille. Deuxièmement, il n'a pas réussi à mettre en place ce qu'il voulait mettre en place, si il a eu des choses à mettre en place, parce que je me demande même s'il a des idées, ce mec, s'il a des idées, parce que je pense qu'on aurait au moins pu les voir un tout petit peu. Et troisièmement, pour finir, c'est un mec qui, je pense, psychologiquement, comment dirais-je, n'a pas anticipé. Le fait que l'Olympique de Marseille reste un club à part, même s'il a entraîné dans des clubs à pression comme l'AC Milan et le Napoli, chaque club a son contexte, et malheureusement, ou heureusement, l'Olympique de Marseille est bien différent des autres clubs, et je pense qu'il n'a pas dû calculer cette chose-là aussi. Voilà, ça c'est mon avis par rapport à Gattuso en synthétisant.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Mohamed. Là, pour tous les intervenants, vous avez été vraiment assez complet sur le cas Gennaro Gattuso. Tout le monde a eu la parole, sauf notre invité exceptionnel du soir. un imitateur de renom au sein de la Team OM, rédacteur en chef adjoint de DZ Foot, qui nous a rejoint et qui va livrer son avis sur Gattuso. J'espère juste que sa connexion ne bug pas. J'espère que tu vas bien, Walid. Si tu m'entends.
Alan Beckham, est-ce que vous m'entendez?
On t'entend parfaitement. On t'entend parfaitement. Est-ce que tu as entendu tout ce qui s'est dit sur Gattuso?
J'ai entendu. J'ai suivi avec grande attention les différents propos et je pense que le mien peut se résumer en un mot. Boarf. C'est littéralement ce que j'ai à dire sur cette saison, sur cet entraîneur, sur le mercato qui a été fait. Alors, il y a plein de petits points qui ont été évoqués ici ou là, et je vais très, très, très rapidement, parce que je pense qu'il est temps de passer au thème suivant, mais très rapidement en énumérer certains. J'ai entendu parler d'un effectif global et cohérent. Très bien. Rappelons-nous que l'Olympique de Marseille a été bâti pour évoluer avec des ailiers. J'aimerais savoir donc, qui est l'ailier gauche de cette équipe? Est-ce que c'est Amin Harit, qui est nul comme ailier? Est-ce que c'est Hazen Ounahi, qui est nul comme ailier? Est-ce que c'est Illiman Ndiaye, qui est nul comme ailier? Qui est supposé être l'ailier gauche de cette équipe? Première question. J'ai entendu également que Gennaro Gattuso était un type qui avait des idées, mais qui n'avait pas à les mettre en application. Très bien. Quelles sont les idées de cette Olympique de Marseille-là et de Gattuso? Est-ce que l'OM presse haut ou est-ce qu'il ne presse pas? Est-ce que c'est un marquage individuel? Est-ce que c'est un marquage en zone? Je ne sais pas. Ça fait 6 mois que le mec est là et maintenant qu'il n'est plus là. Je vous jure, et je dis ça de façon la plus objective et sérieuse, je n'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Je n'ai aucune idée de ses principes de jeu. Je ne sais même pas ce qu'il aimait. Je ne sais pas ce qu'il aimait pas non plus. Bon, apparemment, il n'aimait pas les défenses à 3, très bien, mais qu'est-ce que ça changeait à son animation globale? Aucune idée. Donc voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long sur le sujet, pour qu'on puisse aborder le thème suivant, mais globalement, boarf, littéralement boarf.
Merci beaucoup Walid, le dernier intervenant qui est arrivé, c'est Opti, j'espère que tu vas bien Opti, qui est un chroniqueur habituel de ce space. De base, il n'était pas censé venir hier soir, parce qu'il ne voulait pas venir, et puis il y a eu une nouvelle cette journée, qui a fait qu'aujourd'hui il est parmi nous. Est-ce que tu peux nous parler, Opti, de cette nouvelle et de ce que tu en as pensé?
Est-ce qu'on m'entend?
Et puis on va conclure sur l'horrible.
On m'entend?
Ouais, on t'entend, on t'entend.
Vu nos intervenants, je pense que je peux dire un petit salem. Désolé pour ce que ça pourrait heurter de l'éditeur, mais peut-être que Galtier risque d'arriver, donc on ne va pas vous heurter longtemps. Ceci étant dit, sur Gattuso, je pense que tout a été dit, hein. Que ça soit. Le fait qu'on ne perçoive rien de ligne directrice au bout de 4-5 mois et la variabilité du discours de son arrivée où il plébiscite ses joueurs, où il évoque un vestiaire de... Je ne citerai pas le nom, je ne citerai pas les deux mots qu'il avait évoqués, mais en tout cas, il ne mettait pas en avant le manque de caractère de cette équipe pour au final, 4 mois après, nous expliquer que tous les maux de l'OM ne réside que dans le manque de grinta de ses joueurs tels que Illiman Ndiaye, qui d'ailleurs pour la dernière de Gattuso sur le banc a montré qu'il en avait du caractère et il a gratté quelques ballons dans les pieds. Malheureusement, le collectif nauséabond ne lui a pas permis de briller sur le terrain une nouvelle fois. Mais j'ai rien à dire de plus sur Gattuso, franchement, on a tout entendu, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Si ce n'est, ciao, bonne continuation.
Autorino, parce qu'on ne l'a pas évoqué aussi du côté de Gattuso, certes l'OM voulait s'en débarrasser, mais il y avait quand même dans sa communication quelque chose qui laissait penser qu'il n'allait pas s'attacher jusqu'à la fin à l'OM, et en plus on parlait de contact, je crois que c'était Di Marzio, même Romano qui a tweeté il y a une semaine, et c'est pas anodin quand c'est quelqu'un comme Fabrizio Romano qui est assez proche de la direction de l'OM, de faire fuiter que le coach actuel de l'OM est en contact avec un, ou en tout cas est désiré par un club de Serie A. On pouvait aussi penser que le coach italien n'allait pas s'éterniser. Surtout que je crois que c'était Mohamed qui avait parlé de ses expériences précédentes. À Valence, il était aussi dans une situation un peu similaire, dans un club instable, et où je crois qu'il avait jeté l'éponge, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus s'il s'était fait virer. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur notre ami Gennaro Gattuso. Ça fait quand même une vingtaine, trentaine de minutes qu'on a parlé de son passage à l'OM. On a quand même réussi cet exploit. Si vous avez quelque chose à rajouter.
Non, bah après, c'est... à part dire que ça a été catastrophique, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, hein, malheureusement. C'est un échec, ça n'a pas duré longtemps, c'était un coup de vent. Et je n'ai pas répondu à ta question de départ. Oui, pour moi, son licenciement. Alors, je ne sais même pas si c'est un licenciement ou si c'est lui qui a décidé de partir, en fait.
C'est la mienne, apparemment. Qui a sifflé sur lui,
c'est le licenciement. Pour moi, ça a été fait en tout cas un peu tard. Parce que moi, ça fait depuis bien 3-4 semaines que je dis qu'on doit s'en séparer. Parce que ça fait depuis le début, depuis le moment où il a repris l'équipe, qu'on n'a pas vu d'évolution au sein de l'effectif, et qu'à un moment donné, on voyait que l'équipe, malheureusement, perdait en régime et ne progressait pas. Donc il fallait vite changer avant que la situation ne soit encore plus chaotique, comme elle l'est aujourd'hui, parce que hier, le match, ça a été la cerise sur le gâteau, en plus avec la sortie médiatique de Benatia, etc. Et en plus avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset, etc. Donc pour moi, il fallait que ce soit plus tôt. Donc à part dire que ça a été catastrophique, bon, je sais pas.
Juste, Mohamed, tu m'as fait penser à un truc que j'avais oublié de placer dans les sujets. J'avais pensé juste avant le space, mais c'est passé quelque chose qui a fait que j'ai pas pu énormément travailler.
Tu utilises beaucoup, va falloir que t'en dises plus que ça.
On en dira Youss s'il se passe des choses, tu vois. Ne m'envoyez pas des messages pour me dire que c'est un rapport avec la vente OM, c'est aucun rapport avec la vente OM.
Juste, le club est déjà vendu. Le club est déjà vendu.
Puisque le club est déjà vendu depuis 3 ans. Et juste, si vous voulez interagir avec le space, il y a le hashtag TollZone. Comme ça, on va dire vos messages, on va les republier. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à notre podcast sur Spotify si vous voulez écouter la rediff. On en fait toutes les semaines, si vous découvrez, avec des intervenants de qualité. Je veux revenir vite fait sur l'épisode de Benatia Klos avant d'arriver sur ce qui s'est passé du coup ce matin avec la potentielle nomination de Gasset. Sortie que certains ont qualifiée d'assez maladroite du nouveau directeur sportif ou conseiller de Pablo Longoria, qui s'est clairement attaqué à son joueur. Alors, juste rapidement pour donner le contexte, pour que les gens aussi aient un peu le contexte, il y a eu des premières tensions déjà la semaine passée qui étaient apparues dans un article de l'équipe. Il semble même que Benatia répond à l'article de l'équipe au sein de cette interview avec Samir Nasri. Mais ne m'étonnerait pas non plus qu'elle ait été organisée justement pour répondre à cet article. Et du coup, Benatia aussi a rajouté une interview sur Prime Video juste avant le match, à quelques mètres de Klos, où il allumait tout simplement son joueur. Alors, énormément critiqué cette journée, à la fois par les médias, mais aussi par l'UNFP, qui a fait un communiqué tout à l'heure, où tout simplement, je crois je sais pas s'ils annonçaient porter plainte, mais en tout cas, ils s'en prenaient,
UNFP ou
ils s'en prenaient aussi à Benatia.
Parce que pour le coup, on dirait un article de SoFoot. Hein.
Ouais, c'est vrai, au petit, ça m'a choqué. Ça m'a choqué au niveau de la rédaction du communiqué. Bah, déjà, je vais vous poser une première question. Je vais m'adresser à Walid. Walid, qu'est-ce que tu as pensé de la sortie de Mehdi Benatia? Est-ce que tu la trouves normale? Est-ce que ça partait d'une bonne intention? Et qu'est-ce que tu penses de cette histoire en général entre Klos et...
Je pense qu'on peut assez vite balayer ce sujet. Il y a quelques points très rapides à évoquer qui sont, par ailleurs, je crois, pas mal sortis dans les quelques tweets que j'ai pu lire aujourd'hui sur le sujet. Mais la première chose, c'est que je n'ai pas aimé la sémantique de ceux qui ont critiqué l'intervention de Mehdi Benatia, qui est pourtant loin d'être ma tasse de thé. J'ai pas du tout aimé lire des termes comme racaille, mafia ou autres, qui sont, je crois, des mots assez particuliers qui n'auraient peut-être pas été évoqués dans d'autres cas. Pour autant, et passer cette critique sémantique, bah, je pense que c'était ni fait ni à faire, évidemment, tout le monde est d'accord là-dessus. Quel est l'intérêt de faire pareille sortie au moment d'une crise sportive, si ce n'est flinguer un peu plus le joueur, mais également l'état général dans le vestiaire? Quel est l'intérêt également de faire pareille sortie, si ce n'est annoncer à tous les clubs que le joueur en question, à qui déjà il ne restera plus qu'un an de contrat l'été prochain, est à vendre, et qui plus est à vendre en urgence, donc pour un prix encore plus faible que ce que tu aurais pu espérer. Il est peut-être international français, mais il a 32 ans, 33 même je crois il aura, et un salaire élevé, donc forcément il partira pour très 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 peu d'argent. Quel est l'intérêt de répondre à une question de Nasri? J'ai vu des gens qui expliquaient la sortie de Benatia par le fait que Nasri l'aurait mis au pied du mur et que il était en pleine interview, il ne pouvait pas refuser. Enfin, je m'excuse, si une question vous dérange, vous la balayez d'un revers de la main, d'autant plus qu'il y a un montage qui est fait dans ce type d'interview, ça n'est pas du direct. Donc il suffisait très simplement de refuser de répondre à pareille question. Là, tout ce qu'il a fait, c'est simplement pointer du doigt un joueur, alors, sans pour autant parler de harcèlement, comme l'a fait l'UNFP dans son communiqué, que vous avez peut-être lu, mais je trouve que c'est ni fait ni à faire, inutile si ce n'est nocif. Voilà. Je pense que, en disant tout ce que je vous ai dit là, il n'y a pas grand-chose à sortir, parce que, au final, c'est un non-événement au milieu d'une crise sportive qui, elle, par contre, risque de retenir un peu plus.
Mais justement, Walid, sans qu'on s'éternise sur ce sujet, quand même le fait qu'il y ait un communiqué du NFP, qu'il y ait eu un premier article juste avant, on va pas dire à charge contre Benatia, mais qui était une forme, enfin, qui relatait ce qui s'était passé, et qui semblait plutôt être orienté via des sources du joueur. Qu'on ait ensuite cette interview où toi tu dis que bah, ça se voit carrément qu'il voulait y répondre, c'est une interview préenregistrée, et même il se déplace quand même sur le plateau de Prime Vidéo pour se faire interroger là-dessus. Il y a quand même quelque chose qui pose question. Benatia est à l'OM depuis le mois de novembre. Il y a deux joueurs au sein de l'effectif qu'il a représentés par le passé, deux joueurs qui sont peut-être proche ou non de Klose, ça peut quand même laisser apparaître des tensions au sein du vestiaire ou au sein de l'Olympique de Marseille. C'est vraiment pas quelque chose qui aide l'OM. En tout cas, selon moi, c'est quand même étrange et c'est vraiment malvenu
Pour te répondre très, très cette petite guerre. Je pense effectivement que l'Olympique de Marseille, de cette façon-là, répond un petit peu à la contre-communication qui a été faite par le joueur et son clan à travers les différents voies de presse, mais je trouve que c'est très, très, très maladroit. Puisque dans le cas d'espèce, mis à part mettre ton joueur dans une situation victimaire et toi-même te mettre dans une situation d'agressif ou d'agressant ou tout simplement d'une personne qui n'utilise pas des méthodes, disons, pour le moins conventionnelles, je ne comprends pas l'intérêt. Il y a toujours eu, tous ceux qui connaissent un petit peu les arcanes du football savent que ça se passe comme ça, il y a toujours eu des communications par voie de presse interposée, pardon. Il y a toujours eu ça, c'est un grand classique, l'OM l'a fait encore 50 fois cette saison, c'est pas un problème. Mais dans le cas de Jonathan Clauss, il me semblait que ça avait été suffisant, puisque c'est l'OM, c'est le club lui-même, par l'intermédiaire de certaines personnes que l'on ne va pas évoquer, qui a laissé fuiter les différentes raisons pour lesquelles Jonathan Clauss était incriminé. C'est l'OM
J'ai vu qui a les messages. publiquement fait J'ai vu
part,
les messages directement sur ça.
De
sur
façon très cachée, disons, fait part de ses griefs à l'encontre du joueur en parlant de son hygiène de vie, de ceci, cela, du fait qu'il cacherait des blessures, pardon, qu'il cacherait des blessures, qu'il inventerait, exagérerait des blessures, que son niveau n'est pas à la hauteur des attentes, que son implication à l'entraînement n'est pas non plus à la hauteur des attentes. Bref, c'est le club qui avait déjà fait ça de façon par médias interposés. Maintenant que le mercato est clos, quel est l'intérêt de faire pareille sortie? Si ce n'est braquer un peu plus un joueur qui, de ce que j'ai cru comprendre, je ne le connais pas personnellement, est un type qui est assez léger mais qui prend mal ce genre de choses. Quel est l'intérêt de pareille sortie? J'aimerais beaucoup savoir ce que l'Olympique de Marseille a gagné suite à cette sortie. J'aimerais savoir le positif de pareille sortie. Vraiment, ça m'intéresse.
Juste, Walid, je ne sais pas si t'entends Marouane ou pas, parce il voulait intervenir. Je crois qu'il avait quelque chose à dire
Non,
justement
je
par rapport
m'excuse, je n'ai pas entendu. Vas-y, Marouane.
Non, pas de problème. Non, je disais justement, parce que tu abordais un point intéressant, où tu resituais un petit peu les différents temps. Je ne sais pas si tu m'entends, Walid, là? Ok, non, je pense que tu m'entends.
Nous on t'entend en tout cas.
Ok, ça marche.
Walid, est-ce que tu entends Marouane ou pas?
Non, j'ai pas entendu ça sur ma connexion, mais j'ai pas
Bah,
entendu. Ok.
descends et monte,
Vas-y.
Walid, au pire. Je te refais remonter. Vas-y, Marouane.
Ok, donc pour tout le monde, donc en fait, ce qui était intéressant dans le propos de Walid, c'est qu'il resituait donc le rapport de force et a raison en fait, parce que c'est un club de foot et comme il disait, quand on connaît un petit peu les arcanes du football, ça ressemble très fort à de la politique. Et pour le coup, quand il resitue un peu le rapport de force entre Klose et le club, pardon, donc entre le clan du joueur et la direction, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que au lendemain du match contre Monaco, le club l'a littéralement pourri et qu'aujourd'hui, on tombe sur Mehdi Benatia, comme quoi il apporterait finalement, et pour le coup j'abonde dans le sens de Walid, sur les qualificatifs pardon, qui ont été utilisés à son encontre, qui ont été scandaleux à mon avis, c'est qu'on tombe sur lui, sur sa manière de faire, mais pour le coup, et je l'ai vu de mes yeux, j'ai vu notamment les termes qu'a utilisé Pablo Longoria, quand il a qualifié donc Jonathan Clauss en donnant les raisons auprès du journaliste, hein, directement. En disant que voilà, le vestiaire n'existait pas à l'OM, que enfin, je veux même pas utiliser des termes parce que ça pourrait compromettre des personnes, mais des termes beaucoup plus violents sur Jonathan Clauss que l'a fait Mehdi Benassia. Donc effectivement, il y a deux manières de procéder, il y en a une qui était publique et l'autre qui était privée. Mais sincèrement, aujourd'hui, quand tu as lu ce qui a été dit sur Jonathan Clauss de la part de Pablo Longoria jusqu'au journaliste et qui ensuite a été publié dans la presse, il ne faut pas oublier que ce départ de feu aussi, il est donné par Pablo Longoria. Et derrière, finalement, moi, je peux comprendre aussi le clan du joueur qui se met à répondre. Et derrière, finalement, il ne faut pas oublier là-dessus aussi, c'est que quand le joueur répond via son entourage à l'équipe, quand il parle finalement de ce vocal assez coloré qui aurait été laissé par Mehdi Benassia, où il y aurait eu des menaces, peut-être, certains avancent sans jamais le prouver, c'est que derrière, en fait, tu forces le directeur sportif à répondre, parce que c'est pas la première fois. Il faut pas oublier non plus que dans l'équipe, ça fait plusieurs semaines aussi que on se permette de parler du casier judiciaire des gens de la famille de Mehdi Benassia, qui aurait eu des menaces via son entourage à certains journalistes, et qu'en fait ça crée un narratif autour de Mehdi Benassia qui est assez néfaste. Et derrière, moi je peux comprendre que lui ait envie derrière de prendre la parole publiquement, peut-être par bonne foi, afin de dire voilà comment nous on a procédé. Les gens derrière se font leur avis, mais il faut pas oublier non plus qu'il y a eu tout ce contexte autour et que, encore une fois, comme je l'ai dit, celui qui a allumé le feu aussi dans la presse, c'est Pablo Longoria. Et dans des termes qui, s'ils étaient rendus publics, je suis désolé, ça ferait un scandale. Ça ferait un scandale parce qu'on parle de mots assez forts, des vestiaires qui sont morts. Si le vestiaire existait, peut-être qu'il aurait fallu faire des trucs à close, le secouer, etc., etc. Et dans des termes beaucoup plus durs, c'est un joueur qui a coûté des points. Et tout ça, c'est même pas en interne, hein, parce que ces discussions-là, en interne, dans un club de foot, on s'en doute. Mais quand c'est des choses qui se disent à des journalistes directement, je suis désolé, tu assassines ton joueur. Et c'est une entreprise qui a été démarrée, encore une fois, pendant le mercato, en cette fin de mercato. Et ça n'a pas commencé hier soir au micro de Samir Nasri ou à la mi-temps du match. Donc, faut aussi le...
Et surtout, Marouane, on a des cas précédents, on ne veut pas dire des jurisprudences.
Exactement.
On sait que la communication de l'OM, bon, malheureusement, c'est une thématique qui est assez sensible pour pas mal de personnes sur Twitter et notamment pas mal de comptes Twitter. Qui sont directement liés, mais quand on a tous des infos, on est tous un peu l'outil de quelqu'un, mais il y a des comptes qui sont directement liés, par exemple, à la direction de l'Olympique de Marseille, et on a pu voir que cet appareil de communication que certains... Hein, Yous, j'ai pas entendu. que certains se permettent même d'appeler armée numérique. On a vu sur certains dossiers, comme par exemple Sanchez cet été, Bamba Dieng, ça avait commencé avec Bamba Dieng
aussi. Camara, où finalement Pablo Longoria à l'époque avait fait fuiter dans la presse italienne et la presse espagnole des choses sur Camara. On se souvient de cette histoire où on avait dit que je crois que le président de l'Atlético Madrid était venu à Marseille, qu'il l'avait trouvé en short. Vous vous souvenez de cette histoire-là?
Ouais.
Mais qu'il y avait des choses assez nauséabondes, qu'on parle toujours de gratitude, mais qu'en fait derrière Camara, en fait, ce fameux tweet de la vérité qui prend l'escalier pendant que le mensonge prend l'ascenseur. C'est parce qu'en fait, l'OM lui a fait une proposition de contrat, de ce qu'on m'avait dit, qui était inacceptable, la première. Donc, il me semble que c'était pas d'augmentation de salaire et que derrière, en fait, on l'aurait aussi essayé de faire changer d'agent, qu'il y a eu des choses aussi avec la maman de Camara qui n'étaient pas forcément acceptables. Et derrière, en fait, c'est des cas qui se multiplient. Avec Pap Gay, souvenez-vous aussi assez récemment, directement, le joueur, on apprend qu'il refuse et on apprend quoi? Les chiffres de la proposition dans la presse le lendemain, comme quoi le club l'aurait aidé pendant sa suspension, etc., etc., tout en omettant aussi de dire que quand le club, ils vont chercher Pape Gueye, mais ils sont bien contents de le trouver aussi et de l'inciter aussi à signer. Et le club a été reconnu coupable de ça, hein, devant la FIFA, d'avoir incité le joueur à casser son engagement avec Watford pour qu'il signe à l'OM.
Le joueur a pris aussi, Marouane.
Pardon ?
Faut préciser aussi que le joueur a pris sur lui.
Oui.
Si l'OM n'est pas interdit de recrutement par le TAS, c'est aussi, grâce au joueur. Alors là, juste pour parler, parce que sur je te l'ai juste...
Non, t'inquiète, c'est pour dire une connerie, c'est pas obligé, de toute façon.
T'inquiète, après, même si je t'avais lancé, t'aurais dit une connerie dans tous les cas. Mais sur Pape Gueye, ce que je voulais dire, c'était que y a encore cette communication qui se met en place où on essaye de détruire le joueur. Alors oui, il y a le discours de l'institution est plus importante que le joueur, mais souvent il y a des manières qui sont utilisées qui moralement ne sont pas acceptables. Dans le cas Gueye, où on entend, par exemple, je crois que c'était RMC qui nous disait que Longoria a été furieux parce que le club avait fait beaucoup pour lui. Encore une fois, je le dis, moi, le joueur Pape Gueye, je l'apprécie pas, j'aurais même aimé qu'il soit vendu,
Ah, pas l'ambiance.
Mais c'est grâce à lui que l'OM n'est pas interdit de recrutement. Si le joueur ne prend pas sur lui avant le TAS, l'OM a interdit de recrutement. Et peut-être même pas que sur 6 mois, peut-être même sur 1 an ou 2 ans. Et donc c'est ça qu'il faut préciser, c'est que les informations aujourd'hui que vous avez, ceux qui nous écoutent, ceux qui suivent notre média ou non, que vous avez sur les réseaux, c'est encore plus lorsque c'est la communication du, lorsque c'est la communication du club, il y a aussi la communication des joueurs, c'est souvent orienté, ce n'est pas forcément la réalité. Et il ne faut pas justement jeter sur la première info, mais essayer de faire un travail avec toutes les infos qu'il y a. Et c'est ce qu'on essaye de faire sur notre média. Et c'est ce qu'essaye aussi de faire Yous sur ses streams. Ouais. Yous qui veut réagir sur l'affaire Klose.
Non. Plus sur Pape Gay, parce qu'en fait, là, ça fait 10 minutes que je suis sur le site de l'UNFP et j'essaie de trouver le communiqué.
Tu te délectes du communiqué
Non, mais je cherche le communiqué sur Pape Gay, en fait. Je le trouve pas. J'ai pas vu de communiqué sur le cas Gay.
Je crois que tu avais une théorie.
Peut-être un oubli, je sais pas. Peut-être que j'ai mal cherché. Non, mais après, pour ajouter au cas Klose, cas Benatia, etc., tout ce qui se dit, il y a aussi un autre point. Moi, je suis assez concerné parce que personnellement, je suis bloqué par le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Si tu nous écoutes, j'en doute pas. Je vois qu'il y a du monde. N'hésite pas à me débloquer, mon frère. Mais du coup, je sais que voilà, s'il m'a bloqué, c'est qu'il cherche son nom sur les réseaux sociaux. Et je sais que dans l'entourage de Klose, ça aime beaucoup faire des tweets depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Et je peux pas croire qu'il voit pas tout ce qui se retweet, tout ce qui se like, tout ce qui se relaie depuis plusieurs jours au sujet de Benatia. Et encore quelques heures, il y a eu un tweet qui le comparait à un gérant de chicha. On se demande si c'est le virtuel, le téléphone et tout ça qui vous permet de parler des gens comme ça. Mais bon, enfin bref. Et j'ai vu du coup, la sœur ou la cousine de Klose qui a liké ça. Enfin, tu vois, ce genre de choses, forcément, tu vois, quand tu es dans un contexte, tu ajoutes ça au contexte qui est assez particulier entre joueur et club, après la sortie de Mehdi hier soir, bah, tu peux te dire que ça arrange pas l'histoire dans aucun des sens, quoi.
Ouais, bah je sais pas si vous avez encore des avis sur Klose. Juste...
Vas-y. Moi, ce que je voulais juste souligner, c'est que il y en a beaucoup qui ont parlé de cette sortie-là comme étant une démonstration de force de la part de Mehdi Benatia de l'Olympique de Marseille, montrer l'institution, etc., etc. En tout cas, j'en ai beaucoup parlé de ça. Moi, je suis pas du tout d'accord avec la sortie de Mehdi Benatia. Ça a été une erreur de communication énorme. Le contexte, il n'est pas bon, la forme, elle n'est pas bonne, les mots, le fond n'est pas bon. Enfin, je veux dire, il y a rien qui va dans sa sortie. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que si à un moment donné, il y a eu des problèmes de comportement de Jonathan Klose, apparemment des problèmes de comportement qui ont été récurrents, puisque c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Mehdi Benatia avant qu'il arrive au club. C'est qu'à un moment donné, je pense que ça ne s'est pas arrivé qu'une fois, que Jonathan Klose a eu des comportements déplacés de la part de... Enfin, envers son coach. La question, c'est, à un moment donné, pourquoi il n'a pas été sanctionné sportivement parlant? Parce que moi, Jonathan Klose, à ce que je sache, c'est qu'à chaque fois qu'il a été disponible et 100% pour jouer, c'est-à-dire quasiment toute la saison, à part quand il y a eu l'histoire de la blessure là, contre Monaco, où apparemment, il aurait fait en sorte de pas trop forcer pour se préserver, etc. Bon, ça, je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Mais depuis cette histoire-là, il a toujours été à 100% Klose, il a toujours joué. Donc, à un moment donné, si tu veux montrer ta supériorité institutionnelle sur le joueur, comme l'a fait Benatia en interview là, avec Samir Nasri, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ne pas l'avoir sanctionné? C'est ça, moi, qui me pose le plus problème, c'est que le mec, ça veut dire qu'on est en train de nous dire qu'il a eu des problèmes de comportement avec son coach, qui ont été, du coup, récurrents, puisque apparemment, on l'a prévenu, etc., comme je l'ai dit. Mais d'un autre côté, il n'est pas sanctionné sportivement. Le mec, à chaque fois qu'il est disponible, il joue. Donc, il y a une incohérence totale par rapport à ça aussi, et c'est pour ça aussi que je ne comprends pas.
Mohamed, ouais. Mohamed, est-ce que sportivement, tu avais le choix?
Non, mais là, il n'y a pas question de choix, là. Je suis désolé. Là, il y a une adaptabilité.
Là, sur le coup, tu n'avais personne, en fait, non plus.
Non, mais attends. À un moment donné, tu as un joueur qui fait, apparemment, de ce que dit Benatia, c'est qu'il a un comportement qui n'est pas le bon. Bon, ce qu'il dit, c'est que, de ce qu'on comprend, en tout cas, de ce que j'ai compris moi, c'est que les comportements étaient problématiques. Donc, ça c'est pas arrivé qu'une fois. Ça a été récurrent, ça a été plusieurs fois. C'est qu'à un moment donné... Que tu aies le choix ou pas le choix, tu t'adaptes comme il a fait Sampaoli avec Rongier quand il a fait jouer défenseur droit, où tu mets quelqu'un d'autre, tu marques le coup au moins sur un, deux matchs, t'es obligé. Parce que la chose la plus importante dans un groupe, c'est la discipline. Si t'as pas la discipline, y a rien qui fonctionne après. C'est impossible. Y a rien qui fonctionne, y a rien qui suit. Soit tactiquement et psychologiquement.
Là, pour le coup, c'était pas Valentin Rongier qu'il fallait remplacer. C'était Emran Soglo qu'il fallait remplacer pour.
Je te parle avec Sampaoli parce que Sampaoli aussi.
Oui, oui. Non, non, j'ai compris le parallèle.
Non, bien sûr.
Mais c'est pour dire que vraiment là.
Dans tous les cas, même si tu allais être en difficulté sur un ou deux matchs à ton poste, tu ne pouvais pas en fait laisser passer ces choses-là sportivement, ce n'est pas possible. Moi, je ne comprends pas comment Jonathan Clauss puisse jouer encore titulaire indiscutable dans cet effectif-là, alors que son comportement, d'après ce que dit Benatia, a été problématique.
Mais est-ce que l'un ne nourrit pas l'autre, justement, Mohamed? Tu vois, je me pose la question. Est-ce que c'est pas parce qu'il est justement, malheureusement, malgré tout ce qu'il fait, indiscutable sportivement, donc ils ont fait le choix de se dire bah, « on va le faire jouer », mais à côté de ça, il faut quand même réaffirmer son autorité pour pas qu'il croie que, bah, au final, tout est oublié.
Ouais, je suis d'accord. Moi.
Est-ce que c'est pas les deux qui sont liés, quoi? Parce qu'effectivement, si c'est pas Clauss, si c'est Emran Soglo qui fait ça, tu le revois plus jamais à l'OM et l'histoire elle est réglée. Et t'as même pas de sortie publique, quoi. Est-ce que c'est pas l'importance sportive du joueur qui a un peu conditionné tout ce qui s'est passé après?
Ah non, mais moi ça c'est une certitude. Ouais. Mais est-ce que c'est normal?
Non, je suis d'accord. Non, là-dessus, ouais. Non. Je pense que si tu vas être ferme, faut faire fi du sûr. Sportif non, et du statut. Plus, hein, je suis d'accord.
Il faut quand on replace le contexte des choses, c'est que. On est dans un club où apparemment, quand on entend parler, en tout cas Longoria depuis qu'il est arrivé, à chaque fois, quasiment à chaque sortie médiatique, quand on a parlé d'une situation d'un joueur, il a à chaque fois dit « c'est l'institution au-dessus du joueur ». Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il l'a vraiment souligné quasiment à chaque fois. Le mec, à chaque fois, il parle de institution, institution, institution au-dessus du joueur, institution de n'importe qui, etc., etc. Et apparemment, quand on apprend, et parce que moi, je te rejoins en soi, bien sûr que c'est l'importance du joueur qui conditionne la sanction, bien évidemment. Mais là, quand on a un joueur qui s'appelle Jonathan Clauss, qui fout la merde, parce qu'apparemment, c'est le cas, qui fout la merde avec son entraîneur, et apparemment plusieurs fois, parce que apparemment, ça reste divisé, parce que quand on entend Benatia... Ça devait être vraiment, vraiment problématique au sein de l'effectif. Et ben le mec, il continue à jouer quand même. Il y a une incohérence quand même incroyable dans cette histoire-là. Au-delà de la sortie médiatique de Benatia.
Moi, si je pouvais évoquer le sujet.
Si on peut parler purement sportif, aussi, on peut très mal le fait que l'an dernier, il a quand même sorti 6 mois, ce qui est quand même une longue période misérable, et que pour autant, elle était revenue. On lui a accordé à nouveau une confiance aveugle en lui mettant dans les pieds un concurrent qui n'en est pas un. Ça, c'est aussi un choix sportif de la direction. Hein.
Aussi. Aussi, moi, c'est vrai.
Je crois qu'Optier voulait ajouter quelque chose.
Ce que je veux dire sur le cas, c'est que au-delà d'être d'accord ou pas avec la sortie de Benatia pour ce qu'elle est intrinsèquement, pour reprendre ce mot à la mode, elle est surtout, moi je la trouve très naïve la sortie de Benatia, parce que dans la situation sportive de l'OM une heure avant le match et maintenant 3 heures avant le match, venir taper sur Clauss, qui certes fait un peu débat pour ses prestations chez certains, mais pour la majorité du public marseillais, tu t'attaques au titulaire au poste depuis un an et demi et qui, même s'il est un peu égratigné de temps à autre, est quand même loin d'être la cible première des supporters. Et tu viens taper sur un mec qui est, par exemple, le meilleur passeur en Europa League. Enfin, j'ai du mal à... Je la trouve très naïve, la sortie de Benatia. Après, c'est un peu une guerre de coq. Ce qu'a évoqué Youss, je n'étais pas au courant. Peut-être que quand tu lis Gérant de Chicha, que tu es Mehdi Benatia, que tu as eu la réussite qu'il a eue dans le football, tu te dis qu'il y a un problème éthique de la part du joueur et de son entourage. Parce que tu fais pas une carrière où tu passes par le Bayern et la Juve pour te prendre des clichés de bas étage comme ça. Mais moi, je la trouve... Moi, honnêtement, dans l'absolu, j'ai rien à en redire. Elle me choque pas plus que ça. Mais elle est naïve, quoi. Et la réalité, c'est que 2h30 plus tard, dans une petite aparté avec Samir Nasri, et pour le coup, là, je rebondis sur ce qu'a dit Walid, enfin, il est pas pris au piège par Samir Nasri. Samir Nasri et Mehdi Benatia, ils ne connaissent plus le centre de formation. Toutes les questions, elles sont connues à l'avance. Je pense même que l'interview, elle est commandée par Benatia et pas l'inverse.
Bah, bien sûr, je vous l'ai dit que c'était volontaire, justement.
Ah oui,
Ah, pardon. Tout à fait
non, mais... bien sûr. Oui, mais tu avais évoqué que certains disaient qu'il avait été bloqué. Ben, c'est à eux que je réponds. Benatia n'est pas bloqué par Samir. C'est, je pense que c'est Benatia qui a appelé Samir. La preuve en est, il va chez Amazon Prime aussi pour dire la même chose. Il vient, il évoque Gattuso, il dit 3-4 ans, il évoque son rôle de consultant, il te dit je suis pas décisionnaire, après il te dit ouais j'aimerais bien. Franchement, toute son interview
Il dit il dit qu'il est pas décisionnaire, mais moi qui ai eu des infos sur
le mercato
et notamment sur Faris.
Ouais, bien sûr.
Faris, je peux vous dire que il a été plus que décisionnaire et il a même barré la route à un moment donné à la négociation avec Pablo Longoria, parce que si vous voulez, l'entourage de Faris discutait. Comment ?
Il a barré la. Ils ont dit non à Gift Orban, il me semble, cet hiver, non ?
Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu.
Ils n'ont pas pu pour Gift Orban. Mais moi, je parle de Faris dans le sens où en fait, si vous voulez, il y a eu un accord qui a été fait déjà au mois de novembre, à la base des bases, avec Longoria. Benatia n'était pas encore arrivé.
Ok.
Longoria avait contacté du coup tout l'entourage de Faris. À ce moment-là, Faris représenté par Atta, agent de Boniface et de Gift Orban. Ouais. C'est pour ça qu'aussi Gift Orban ça a failli se faire aussi. Mais et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un accord contractuel. Il y a eu un accord contractuel, etc. Pas de signature, mais il y a eu un accord contractuel. Une vraie proposition de contrat, etc., des négociations qui ont été faites. La seule condition, c'était que Faris n'aille pas à la CAN. Ça, c'était la seule condition pour que ça se fasse très rapidement. Okay. Longoria a pris la température avec Rigobertson pour savoir s'il allait faire la CAN ou pas. Rigobertson lui a dit oui, il va la faire. Ça, c'est une certitude. Donc, Longoria a lâché l'affaire parce que lui voulait vraiment un apport, un atout offensif pendant que les autres ne sont pas là, parce qu'il y avait quand même beaucoup de pertes, Eliman, Ismaël Assar, etc.
Bah, tous les joueurs, quoi.
Voilà, exactement. Le truc, c'est que Benatia est revenu, est arrivé. Il a relancé la piste. Au début, les négociations se faisaient avec Longoria et Benatia. Et Benatia, quand il dit qu'il n'est pas décisionnaire, aujourd'hui, Benatia, il arrive avec un statut à l'Olympique de Marseille. Quand même très, très important.
Non. Non, c'est pas vrai.
C'est vraiment pas vrai parce que lui a dit clairement à la famille du joueur, parce que faut savoir une chose, c'était qu'à partir du moment où Benatia est arrivé, il y a eu un changement. C'est pas à cause de Benatia. Il y a eu un changement d'agent. Maintenant, c'est la boîte MVP qui s'occupe des intérêts de Faris. Mais comme Atta était là au départ, il a dû rester parce qu'en fait, il y a eu des problèmes sur le contrat, etc. Enfin bref, et Benatia a clairement barré la route à Longoria. Il a dit maintenant, c'est moi qui gère le dossier, vous parlez plus avec Longoria, etc., etc.
Ah oui, non, mais même sur le dossier.
Ils disent que.
Oui, sur l'arrière gauche aussi. Hein.
Oui, mais sur l'arrière gauche, on sait que Merlin, c'était sa piste à lui. Ouais, quand Klos, quand ils ont mis Klos sur le marché à Signon et toutes les autres pistes, c'est lui qui les a activées.
Exactement.
Donc, en fait.
Ils disent pas qu'il n'a pas de.
Oh, ouais, c'est de la com mal placée et sur tous les sujets. Le Calogi, écoutez les streams de Youth pour savoir comment ça s'est passé, mais ça s'est pas passé comme Benatia l'a dit, parce que l'Arabie Saoudite, voilà, toute la petite intervention de Mehdi chez Samir est un tissu de com, quoi, on va pas dire de mensonge, de com. Et quand il est...
Si, de mensonge.
Ouais, de mensonge. Et quand il est... Le plus drôle, c'est le seul cas où il a pas menti, c'est quand il évoque le projet de 3-4 ans avec un entraîneur, soit, tant mieux, on lui souhaite de nous trouver un bon entraîneur et un projet de 3-4 ans. Mais quand il a dit comme Gattuso, il n'a pas dit projet de 3-4 ans avec Gattuso, il a dit comme, c'est-à-dire mais pas lui en fait.
Mais ça, t'es pas à l'abri avant l'interview, il a dit Samir, tu vas voir, à un moment je vais dire un truc, tu vas essayer de pas rire parce que.
Ouais, mais même la tête de ça.
Et juste pour te répondre, Mohamed, juste pour te répondre, à titre perso, je ne lui souhaite pas un projet à 3-4 ans. Je leur souhaite de tous dégager et qu'ils vendent le club. Donc non, des projets trading, etc. Non, merci, c'est bon, ça suffit. Hein.
Ah, le... Merci Walid. On avait besoin de représenter le hashtag VentoM dans ce space. en tout cas, c'était très intéressant, les gars, pour l'instant sur Klos, même ce qu'on a dit sur Gattuso. Je pense qu'on va pouvoir passer à l'autre grosse nouvelle de la journée.
Juste avant, je vous invite, hein, encore une fois, si vous voulez réagir, à cliquer sur le hashtag. Aussi, à suivre nos intervenants, qui aujourd'hui, on a de la chance, on a des super intervenants. Marwan, Yous, Moha, Walid, Well, Younes et Opti, même si ce n'est pas son vrai compte, on ne sait pas pourquoi. N'hésitez pas à aller les suivre et à interagir. On retweetera et on essaiera de montrer vos messages et d'y répondre.